syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Bonsoir. Hey, salut.
Alors, il est 19h passé de 6 minutes, pardon, et c'est l'heure du Canu Info.
Canu Info d'aujourd'hui qui va commencer par des petites brèves, dont une à Béziers où un détenu a pris 6 mois de prison pour un film.
Et puis, les clowns se réveillent.
Toujours moins de droits pour les chômeurs.
Une nouvelle vidéo choque les mangeurs de bidoches.
La présentation du mensuel Merhaba Evalno, un mensuel sur le Kurdistan.
Et le Conseil de l'Europe tombe sur la France au sujet des Roms.
Ensuite, on aura une longue, malheureusement, chronique, il faut que ça se sache, sur les migrations et les luttes de sans-papiers. Et on commence à Béziers donc, où un détenu qui s'était filmé en train de fumer un joint en direct de sa cellule, c'était au centre pénitentiaire de Béziers, il s'était filmé via alors, ce qu'on appelle Periscope, les gens un peu connectés doivent connaître, c'est une application vidéo de Twitter. Et du coup, ça a fait grand bruit, il a écopé en comparution immédiate de 6 mois de prison ferme pour recel, je cite, recel d'un objet irrégulièrement introduit dans un établissement pénitentiaire. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'objet en question, c'est pas du tout le joint, mais c'est le téléphone. Puisque, le joint, la paix se fout bien de la cam en prison, ça permet que les détenus passent leur temps et qu'ils soient plus dociles. Mais par contre, elle ne veut surtout pas laisser filtrer une image de liberté qui viendrait de l'intérieur d'une tôle. Cette sentence s'ajoute donc à la peine de 4 ans qu'il purge déjà dans le cadre d'un vol aggravé. Ça c'est l'histoire. Immédiatement placé dans un autre quartier de la prison dimanche, puis en garde à vue au commissariat de Béziers lundi, il s'est retrouvé une nouvelle fois donc devant le tribunal correctionnel. Le procureur avait même requis 10 mois de ferme quand même, pour un téléphone donc. Interrogé du coup sur je sais plus quelle radio, Europe 1 je crois, il y a le garde des Sceaux Urvoas qui a affirmé son intention de mettre en place un dispositif de brouillage des téléphones portables dans les tôles en France, et qui rappelait à l'occasion que l'année dernière il y a environ 30 000 appareils qui ont été saisis dans les prisons, alors qu'il y en avait 27 000 l'année d'avant. Donc voilà, je tiens quand même à rappeler que cet objet, le téléphone, c'est aussi un moyen de rester en contact avec ses proches, notamment en cas d'éloignement ou d'interdiction de parloir, qui restent des mesures punitives qui sont très très répandues à l'administration pénitentiaire.
Alors, avec le projet de loi El Khomri, les clowns du PS se réveillent. Alors, Aubry, Hamon, Julliard, ainsi que l'écolo, Claude Mendit, mais c'est pas loin, et tout un tas d'autres ont signé une tribune dans Le Monde pour dire que tout le mal qu'ils pensaient du gouvernement. Bon, ça fait juste 4 ans que tout le monde s'est rendu compte que le PS fait passer des mesures que même la droite n'aurait pas osé. Et ça fait depuis 81, allez, 82 pour les plus optimistes, qu'on savait qu'il n'y avait rien à espérer dans le PS. Et ça fait des siècles et des siècles qu'on sait qu'il n'y a rien à espérer tout court de n'importe quelle classe dirigeante. Alors bon, à part si les tribunes, si la tribu, leur tribune appelle à boycotter les urnes et à s'organiser sans parti, j'ai bien peur que ce soit juste un petit coup de pub pour leur future primaire de gauche.
Et toujours moins de droits pour les chômeurs et chômeuses de ce pays. Les négociations, et on peut le mettre entre très gros guillemets, les négociations sur l'assurance chômage ont commencé lundi, le 22 février, entre du coup le patronat et les syndicats autour des nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Actuellement, un chômeur, un petit rappel comme ça pour ceux qui ne sont pas au chômage, incroyable. Un chômeur indemnisé touche l'allocation de retour à l'emploi, l'ARE, c'est-à-dire 57% de son salaire brut, jusqu'à épuisement de ses droits à CEDIC. Le montant reste le même pendant toute la durée de l'indemnisation. Il y a à peu près 3,5 millions de chômeurs du coup recensés, enfin les chômeurs de catégorie A, selon l'INSEE, ce qui fait 10% de la population. Du coup, on n'a jamais vraiment réussi à savoir c'est quoi le nombre de personnes qui n'ont vraiment pas de travail en France, mais c'est beaucoup plus. Et les autres, bien sûr, sont de plus en plus précarisés puisque le CDD est devenu la norme. En tout cas, les négociations s'annoncent largement bidon puisque les conventions UNEDIC, alors l'UNEDIC, du coup, c'est une asso 1901 qui gère l'assurance chômage. Un petit rappel aussi. Les conventions sont décidées par le patronat et les syndicats, mais le gouvernement peut mettre bien sûr son grain de sel dans ces trucs-là, et ils y ont déjà un petit peu préparé le terrain, si jamais ils n'arrivent pas à s'entendre, puisque le gouvernement suggère déjà la piste de la dégressivité des allocations. Alors ça existait avant en fait, c'est pas la première attaque du coup, puisque de 92 à 2001, les allocations étaient dégressives. Le système a été décidé en France en 92, et alors que l'UNEDIC était très déficitaire. Les syndicats et le patronat ont décidé d'instaurer la dégressivité de ces allocations. Du coup, le schéma, c'était en gros, t'es au chômage, tu touches toujours tes 57% pendant 9 mois, et ensuite les allocs baissent tous les 4 mois de 17%, etc. Mais en 2001, du coup, le système dégressif avait été arrêté, car j'ai un problème de phrase qui est évident entre mes deux feuilles. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le déficit de l'UNEDIC est bien sûr un faux problème, puisque nous le savons, de l'argent, il y en a ailleurs. Hollande ne s'est pas gêné pour faire plus que des cadeaux au MEDEF ces derniers temps, notamment la suppression des cotisations familiales pour les entreprises et les travailleurs indépendants, ce qui représente quand même un montant total de 30 à 35 milliards d'euros. Et bien sûr, ça n'a pas créé d'emploi comme ça avait été prétendu. Le gouvernement a déjà prévu de faire face à de nouvelles économies, en retirant 800 millions d'euros des cotisations sociales, prétextant du déficit de l'UNEDIC, donc, qui est estimé à 4,4 milliards d'euros, et propose cette dégressivité. La multiplication des contrôles et le harcèlement des chômeurs n'étant sans doute plus suffisant, ils trouveront de toute façon sans doute encore bien d'autres pistes pour maquiller la réalité et rendre les plus pauvres responsables de la défaite de leur système inégalitaire.
L'association L214, qui est une association qui lutte pour les animaux, a diffusé hier une nouvelle vidéo choquante qui montre les mauvais traitements infligés à des agneaux, à des bovins ou à des porcs, tout ça dans un abattoir certifié bio, dans un bled qui s'appelle Le Vigan, c'est dans le Gard. Cette diffusion a relancé le débat sur le traitement des bêtes dans les abattoirs. Il faut dire quand même que cette vidéo a été vue 600 000 fois en à peine plus de 24 heures. C'est quand même, ils font le buzz, quoi. Alors la vidéo montre notamment un employé qui est en train de lancer à plusieurs reprises et violemment des agneaux contre les cultures, des bovins et des porcs qui sont, alors dans la théorie, en fait tous les animaux sont étourdis avant d'être égorgés. Bon, et ben là ils sont saignés alors qu'ils sont encore en train de bouger. Un employé a l'air de bien s'amuser à donner des coups de matraque électrique, alors qui est l'outil qui est censé servir à étourdir les animaux. Mais là, il les donne de manière à ce que les animaux soient pas du tout étourdis, mais juste de manière à les torturer, quoi. Donc en faisant des petits coups brefs et répétés au lieu d'un gros coup qui les envoie dans les vapes. Et puis tout ça se passe dans une atmosphère de franche rigolade. Hein. Les employés qui sont filmés à ce moment-là sont vraiment en train de rigoler. Ouais, enfin c'est vraiment ça quoi. C'est une séance de rigolade. Suite à cette vidéo, en fin de matinée hier, le procureur de la République d'Alès a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête préliminaire après la plainte qui a été déposée du coup par l'association L214, une plainte qui dénonce des faits de sévices graves, mauvais traitements sur animaux et violation de la réglementation relative à l'abattage. Dénonçant des pratiques intolérables, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a de son côté annoncé avoir diligenté une enquête de la Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire. Cet abattoir est certifié bio, il travaille en circuit court, Brigitte Gauthier, qui est la porte-parole de L214, nous dit qu'il est temps de regarder en face et avec honnêteté la réalité de l'abattage des animaux, une réalité dont même les abattoirs à taille humaine et certifiés ne peuvent masquer la cruauté. L214 demande une nouvelle fois une commission d'enquête parlementaire sur les méthodes d'abattage et les abattoirs français en général. Il faut dire que L214, c'est une asso qui fait vraiment une sorte de sacré boulot, mais entre autres en trouvant plein de manières d'aller filmer clandestinement ce qui se passe dans les abattoirs. Et qu'à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, c'est quand même vraiment des vidéos de trucs dégueulasses. Ils ont déjà fait ça il y a 4 mois avec un autre abattoir qui, lui, n'était pas bio ou c'était un abattoir généraliste, quoi. C'était l'abattoir municipal de Alès. La diffusion avait déjà suscité des grosses, grosses réactions. L'ouverture d'une enquête préliminaire, bon, toujours en cours à Alès, hein. Et la fermeture temporaire de l'abattoir. C'est-à-dire que voilà, ils arrivent à filmer dans un abattoir. Alors, ils expliquent pas leur méthode, hein, mais soit ils arrivent à introduire des gens, soit ils arrivent à avoir des gens qui bossent dans l'abattoir et qui sont quand même pas très contents de comment ça se passe et qui eux font sortir des films. Toujours est-il que c'est un peu galère, quoi, parce que c'est les directeurs des abattoirs ont bien sûr pas du tout envie de ça. Du coup, il faut rentrer clandestinement, le matos pour filmer et tout ça. Alors voilà. On peut continuer à dénoncer un abattoir, puis un autre abattoir, puis un autre abattoir. C'est ce que fait du coup très bien L214. Mais pour les gens qui sont pas L214, pour nous, pour tout le monde, combien il va falloir de dénonciations pour qu'on se décide à comprendre que c'est pas le problème de tel employé sadique et bien comprendre que la viande en soi, c'est quand même le fruit d'une pratique globalement dégueulasse. Il faut savoir que tous les jours, des poulets en batterie vivent dans des conditions tellement ignobles qu'on est obligé de leur couper le bec quand ils sont tout petits pour éviter qu'ils se bouffent à mort tellement ils deviennent fous dans leur cage minuscule. Tous les jours dans les abattoirs industriels, les poulets par exemple qui sont censés passer dans une machine qui les égorge, en fait ils se débattent à ce moment-là. Il y en a la moitié qui sont pas correctement égorgés et égorgés au moment où ils sont plumés, donc ils sont plumés vivants. Tous les jours, les poussins mâles qui naissent sont, on fait un gros tas, on le met sur un tapis roulant et puis on les broie vivants parce qu'eux, ils vont pas pondre des œufs jusqu'à ce que ça soit le moment de les égorger. Alors les bio qui se donnent bonne conscience en mangeant de la viande certifiée bio, celle-là, elle a été élevée heureuse, elle a été bien tuée, nanana. Eh ben non, les images qui ont été publiées hier le montrent. Tuer un animal, c'est dégueulasse. Les gens qui en font leur métier sont pas plus méchants que n'importe qui, hein, pour la plupart. Mais n'importe qui est mis dans une situation où tous les jours il exerce professionnellement une violence de ce genre, et ben n'importe qui dans ces conditions-là a des grosses chances de devenir sadique juste pour survivre psychologiquement. C'est comme un maton, comme un flic ou comme un prof. Il y a une barrière, il y a deux côtés. Et pour justifier qu'on est du côté où on a la force, où on a la puissance sur l'autre, et ben on traite l'autre de plus en plus mal et de manière de plus en plus dégueu. Alors les gens qui aujourd'hui s'indignent et puis qui dimanche prochain vont manger le gigot de mémé parce que mémé a acheté du gigot bio, en parlant à table du fait qu'ils sont quand même bien impatients d'avoir les résultats de l'enquête qui a été du coup diligentée par Stéphane Le Foll, et ben ces gens-là sont rien d'autre que des beaux hypocrites.
Mais il y a quand même un truc, et ça permet de le dire, c'est que malgré la mode du végétarisme, du véganisme et du bio qui se répandent de plus en plus, il y a d'autres raisons que juste le bien-être corporel et la bonne digestion, etc. pour arrêter de manger de la viande, en tout cas c'est ce qu'on est plusieurs à penser ici, et ces raisons, ben, c'est celles-là dont on vient de parler.
Non, en fait, il y a encore d'autres raisons qui sont aussi des raisons climatiques, qui sont des raisons de gestion des ressources alimentaires dans le monde. Par exemple, la dernière grosse crise alimentaire où il n'y a réellement pas eu assez à manger pour la population de la planète, et où c'était pas qu'une question de répartition, c'est un moment où toute une partie de la population indienne et chinoise ayant accédé à un meilleur niveau de vie s'est mise à manger de la viande. Et sauf que pour produire un kilo de viande, il faut en moyenne 10 kilos de céréales. Du coup, la même surface de production, si tout le monde mange de la viande, en fait, ça suffit juste pas pour l'humanité.
Et peut-être qu'on peut souligner que là, souvent, on entendait sur des trucs d'abattage et tout, et que du coup, c'est sur les animaux terrestres, mais c'est quand même au niveau du poisson, c'est quand même souvent la même chose, et que le sort des poissons n'est guère mieux, quoi. Alors, des nouvelles un petit peu plus... la sortie d'un mensuel plus réjouissante, alors sur des nouvelles qui ne le sont pas forcément, mais un tout nouveau mensuel vient de sortir, il s'agit de Meraba Evlano, je le prononce avec un très mauvais accent, je suis désolé, et il s'agit d'un mensuel qui parle de nouvelles du Kurdistan. Alors le but de ce mensuel est de diffuser largement les luttes au Kurdistan, que ce soit les luttes actuelles, mais aussi les luttes plus anciennes et les différents mouvements de résistance qui existent au Kurdistan. Plusieurs articles de presse sont traduits, ainsi que des témoignages, et notamment dans le premier, là, un article assez bien foutu qui revient sur l'histoire du Kurdistan, de comment le Kurdistan s'est retrouvé coupé entre quatre pays après la Première Guerre mondiale, à la naissance dans les années 70 des mouvements de libération kurde, et finit sur l'état actuel de la situation des Kurdes dans les quatre pays que compose le Kurdistan, à savoir la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Il y a également dedans le témoignage d'un volontaire français parti combattre dans les forces kurdes au Rojava, qui est hyper bien, que je vous conseille de lire. Là, dedans, il dit si vous êtes gauchiste et que vous allez là-bas, franchement, c'est cool. Moi, je l'ai fait, mais par contre, vous attendez pas à ce qu'on soit majoritaire dans les étrangers qui sont organisés là-bas. Quand même, la plupart du temps, c'est d'anciens militaires qui veulent péter la gueule à Daesh, quoi. Il dresse pas du tout un constat hyper sombre. Il a dit je suis hyper content de comment ça s'est passé là-bas, c'était vraiment chouette et tout, mais par contre faut pas y aller avec plein de rêves et plein de principes à la con qu'on pourrait avoir avec l'idée d'y aller. Faut y aller en sachant ce que c'est, et lui son but c'est d'expliquer un peu c'est quoi la situation là-bas, quoi. Bref, c'est un mensuel franchement assez joli, bien foutu. Il y a un petit glossaire à la fin de toutes les abréviations qu'on peut entendre sur le sujet, du genre YPG, PKK,
plusieurs partis qui changent de nom tous les 3 ans.
Et du coup, en plus, c'est assez bien fait parce que c'est classé par région. Du coup, donc tout ça est quand même assez fait pour si vous y comprenez pas grand chose non plus dans cette région qui est quand même vraiment compliquée. On en parle souvent ici, mais c'est pas pour autant qu'on maîtrise sur le sujet sur le bout des doigts non plus. Bref, si vous voulez choper ce mensuel, il est dispo sur paris-lutte.info dans la rubrique thématique, puis dans Résistance et Solidarité Internationale, ou alors sur le site www.kedistan.net. Il est en page d'accueil sur la droite, un petit peu en bas, là, vous faites dérouler avec votre souris. Et au passage, on pourra que vous conseiller de jeter un coup d'œil à ce site qui relaie beaucoup d'actu sur les luttes kurdes, mais pas que. Et pas besoin de préciser que le fichier est téléchargeable gratuitement et qu'il est vivement, et voire très vivement, encouragé de l'imprimer et de le diffuser là où bon vous semble.
Et aussi un autre site, un blog qui est tenu... qui est tenu en France, qui s'appelle Nevar Neyok, ni oui ni non, né en quatre mots du coup, Nevar Neyok.
Pas du tout ni oui ni non, qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf?
Yok, ça veut dire... Bon bref,
en fait, littéralement, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas?
Ah, voilà, vous voyez, on en parle, mais en fait, on n'est pas doué. Et qui est aussi une bonne source d'information et d'articles de fond, que vous pouvez retrouver en français.
Alors, hop, je viens de découvrir que c'était encore moi de parler. Alors, eh bien, même politique, même critique, et comme ça avait déjà été le cas sous Sarko, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe critique la gestion des expulsions des bidonvilles du gouvernement. Alors, dans un courrier adressé à Cazeneuve, le commissaire dénonce, alors je cite, un climat d'anti-tsiganisme qui existe de longue date en France et dans lequel ces opérations sont menées. Alors pour lui, et comme pour bon nombre d'assauts de terrain et de militants, les expulsions ne font que précariser encore plus les familles. Il écrit donc à Cazeneuve, les expulsions interrompent les parcours scolaires des enfants, compromettent le suivi médical et fragilisent le maintien dans l'emploi. Alors, ce courrier n'a pas été envoyé seulement à la France, mais également à l'Albanie, à la Bulgarie, à la Hongrie, à l'Italie et à la Suède. Alors, ça n'a pas l'air d'effrayer beaucoup le gouvernement d'être mis dans le même panier que l'Albanie, la Bulgarie et la Hongrie sur la discrimination envers les Roms. Moi, je trouve ça un peu inquiétant. À titre de comparaison, c'est un peu comme si l'ONU envoyait un courrier à Hollande et à Bachar al-Assad pour dire que leur gestion des Syriens était craignos. Mais non, pour se justifier, Cazeneuve a déclaré que les expulsions visaient à respecter le droit à la propriété. Bah oui, c'est important, hein, un terrain vide. Et ce droit à la propriété, même laissé à l'abandon, est tellement important que, par exemple, à la Fécine, pas très loin de Lyon, où un camp s'est fait expulser il y a quelques temps, pour être bien sûr que personne ne puisse s'y installer de nouveau, des galets ont été disposés sur le terrain. Parce que bon, quand même, il risque de rien de se passer sur ce terrain pendant des siècles. Il faudrait surtout pas que d'autres gens aient l'idée d'y construire des cabanes. Mais c'est pas tout, puisqu'il a également déclaré que si il fout les Roms à la rue, pardon, c'est bien sûr et avant tout pour les protéger. Il a déclaré, je cite, écoutez bien, protéger les occupants, enfin c'est pour protéger les occupants de risques liés à leur santé, à leur sécurité ou à d'autres périls que peut engendrer l'économie de la misère. Bon bah, sauf que là c'est un peu le serpent qui se mord la queue quand même, puisque la misère qu'il dénonce est bien entendu entretenue par la précarité qu'il leur fait subir. L'économie de la misère ne trouverait pas de bons clients si au moins il ne les expulsait pas tous les 4 matins. Je sais pas moi, comme ça éviterait peut-être à quelques connards de se faire payer 300 ou 400 euros pour refiler une adresse de bâtiment vide tout pourri. Mais bon, comme on imagine qu'il est quand même pas trop con Bernard, on se doute bien que ça il le sait, alors pourquoi il continue d'expulser à tour de bras les campements si ce n'est pour faire plaisir à la petite France raciste? Franchement, je vois pas bien. Pardon.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que tu sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Et on commence cette rubrique en Allemagne, où les agressions racistes se sont largement répandues ces dernières semaines. Notamment ces derniers jours, des attaques ont ciblé des centres d'hébergement de réfugiés. On compte par exemple 3 attaques en 4 jours réparties sur 3 villes dans le Land de Saxe, c'est du coup dans l'est de l'Allemagne, c'est le Land où il y a Leipzig notamment. Alors voilà, du coup, ça a commencé le 18 février dans la ville de Klausnitz, près de Dresde. Pendant une heure, il y a la foule une centaine de personnes à peu près, qui a encerclé et bloqué un bus de 20 personnes réfugiées qui arrivaient dans un centre d'hébergement. Alors la vidéo a pas mal tourné sur le net là-bas. On y voit la foule scander des « Nous sommes le peuple » ou « Sortez-les ». Du coup, visiblement, des réactions un petit peu anti-politiques d'accueil par rapport aux réfugiés. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà, sur cette scène, il y a un truc un peu bizarre. Il semble qu'il y avait des personnes à l'intérieur du bus qui ont vraiment flippé, qui pleuraient, etc. Il y a un flic qui est rentré dans ce bus et qui a exfiltré bien violemment un adolescent qui avait l'air lui aussi de flipper vraiment. Alors derrière, il y a eu des explications. Le préfet de police de Chemnitz, il a justifié l'intervention en la qualifiant d'absolument nécessaire et proportionnée. Alors voilà, lui, il dit qu'il considère les réfugiés qui sont à l'intérieur du bus, alors là, c'est magnifique, vous allez voir, comme co-responsables de l'agression du bus, pour avoir, dit-il, provoqué la foule par des gestes. C'est ça, c'est 100 personnes qui étaient là par hasard, bien entendu, devant le centre d'hébergement, au moment où le bus arrivait, se sont mis en colère parce que on leur a fait un coucou mal placé. Donc voilà, en tout cas, heureusement, dans la nuit, il y a, en réaction à ça, la préfecture de police qui a été taguée, pour lui faire un peu ravaler ses conneries, et taguée pas à moitié, parce que c'était des lettres quand même de 8 mètres sur 1, où on lisait,
oh, pas mal,
pas mal hein, on lisait, par contre, le slogan est pas grandiose, mais le préfet violente des enfants. Ensuite, on va à Le Bao, où il y a des cocktails Molotov qui ont été envoyés sur un lieu d'hébergement de demandeurs et demandeuses d'asile, mais où là, il n'y aurait pas eu de dégâts majeurs. Le troisième événement, c'est à Bautzen, où un incendie volontaire dans un centre d'hébergement, mais là en cours de construction. Pendant que les pompiers tentent longuement d'éteindre des flammes, il y a des riverains et des curieuses qui se sont attroupés, et qu'il y en avait pas mal qui applaudissaient l'incendie et d'autres qui scandaient des slogans xénophobes. En tout cas, le toit du bâtiment est parti en fumée, il y a recommencé pour pouvoir accueillir à nouveau des réfugiés.
Du coup, depuis, on sait que c'est un incendie volontaire, parce que les médias en ont un peu parlé, et à chaque fois, ils parlaient d'un incendie, ils disaient pas du tout si c'était un incendie volontaire ou pas. Et...
Alors, moi, j'en avais pas entendu parler avant ça. C'était présenté de cette manière, et du coup, cette critique vient, cette chronique-là, je l'ai pompée sur un site militant français qui était une traduction d'un indie média allemand. Alors, ça veut pas dire que c'est la vérité exactement, mais du coup, en tout cas, c'était présenté de cette manière. Est-ce que c'est partisan? Je sais rien. C'était présenté comme ça, en tout cas, dans le texte. Enfin voilà, tout ça pour dire que ça nous fasse pas oublier non plus que c'est le même racisme qui pullule à l'intérieur des frontières françaises, bien sûr, et mon collègue va le démontrer à l'instant même.
Alors, le tribunal administratif de Lille devait se prononcer hier sur l'arrêté qui a été pris par la préfecture du Pas-de-Calais, arrêté qui obligeait les migrants à quitter la moitié sud de la jungle de Calais avant hier 20h, théoriquement. Bon, comme la juge du tribunal administratif n'a pris aucune décision pour l'instant, l'expulsion reste suspendue. La justice administrative avait été saisie depuis vendredi en référé par plusieurs associations d'aide aux migrants qui réclamaient le report du démantèlement programmé de la jungle. Démantèlement, on va pas revenir dessus, hein. Mais bon, on voit bien ce qu'on veut dire,
même si peut-être vous comprenez pas ce qu'on veut dire, mais c'est très...
Bon, allez, on va revenir dessus très rapidement. Il me semble que c'est vraiment à l'époque du début de Sarkozy où on a commencé à parler de démantèlement. À l'époque, c'était surtout orienté quand on voulait virer des camps de Roms. Au lieu de dire qu'on les expulsait, on les démantelait, ce qui laissait sous-entendre qu'on s'attaquait à des réseaux criminels, parce que le mot démanteler est quand même associé classiquement dans le vocabulaire médiatique à démanteler un réseau criminel. Donc là, en démantelant un camp, on se rendait bien compte que surtout, on allait nuire à l'organisation de mafia et non pas foutre dehors des enfants en plein milieu de l'hiver.
C'est très bien que tu l'aies précisé.
Bon, la décision du tribunal, en tout cas, sujet, devrait être rendue dans les prochains jours ou les prochaines semaines, d'après la juge. Dans l'attente de la décision, la préfecture a expliqué qu'elle allait renforcer les maraudes sociales auprès des migrants pour les inciter à rejoindre le camp d'accueil provisoire, donc le CAP, qui est installé à Calais, ou alors un centre d'accueil et d'orientation dans un autre département. Alors, les centres d'accueil et d'orientation, c'est des machins qui ont été mis en place pour essayer d'y envoyer certains des migrants à Calais, ceux qui seraient pas bien sûrs de leur choix. Bon, les gens, s'ils sont à Calais, à la base, c'est qu'ils veulent partir en Angleterre. Mais alors, s'il y en a qui voulaient pas faire ça, qui voulaient peut-être demander l'asile en France, qui voulaient peut-être choisir un autre pays, qui voulaient peut-être je ne sais trop quoi, bon, pour cela, il y a ces centres d'accueil et d'orientation. C'est aussi là, théoriquement, qu'on envoie les mineurs. Ces centres d'accueil et d'orientation, a priori, pourraient être une bonne idée, sauf qu'ils ont été complètement faits à l'arrache, sans aucune concertation entre les différentes personnes qui pourraient avoir quelque chose à y faire, les différentes personnes françaises. Et ils ont été faits d'une manière qui fait de toute façon qu'il y a peu de chances que des migrants aient très envie d'y aller. Vous pourrez trouver des précisions dessus dans plusieurs articles sur le blog Passeur d'Hospitalité, blog dont je vais reparler dans les minutes qui viennent. Et quant au camp d'accueil provisoire, alors ça, c'est la solution miracle pour l'expulsion de cette moitié sud de la jungle, donc qui devrait avoir lieu rapidos, quand même maintenant, selon ce que dira la juge du tribunal administratif. Donc ces camps, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc super, c'est un camp de containers. Donc on a pris des containers, on les a empilés et on va loger les migrants là-dedans. La grande classe. Alors bon, ceci dit, par rapport où ils habitent, on pourrait dire que c'est effectivement super parce que pour l'instant, ils sont dans des tentes et dans des cabanes de palettes, dans un camp plein de gadous. Là, en l'occurrence, il y aura des toits étanches, il y aura un centre de restauration, il y aura des douches, des toilettes, qui seront pas juste un trou creusé dans le sol. Mais bon, il faut quand même bien dire que les containers, ils font 12 places, que du coup, on rentre dans la pièce, il y a 12 lits et rien d'autre. Que c'est ce qui veut dire que les gens ils sont forcément par 12 quoi, que par exemple si vous êtes une famille de 5 personnes, vous allez pas avoir une intimité familiale, vous allez être avec 7 autres personnes. Il y a aucune sorte d'intimité, il y a pas le moindre rideau ou quoi que ce soit, et de toute façon, il y a pas non plus la possibilité pour les migrants de rajouter un rideau ou de mettre un petit poster sur le mur. En fait, il y a aucun droit à personnaliser en aucune manière le coin où on sera dans les containers. Par exemple, il y a un Égyptien qui, parce que ce camp existe déjà, hein, mais il y a un Égyptien un jour qui a construit une petite caisse carrée pour ranger ses chaussures. Et ben, on la lui a fait enlever.
Ouais. Ah oui. T'es pas chez toi. Hein.
C'est ça. Les gens sont vraiment pas chez eux. Alors ils ont pas vraiment le droit non plus d'inviter des amis, hein, puisque pour entrer dans le camp, bah le camp est entouré de grillages. Pour entrer dans le camp, il faut poser sa main sur un scanner qui scanne votre main, et donc il y a uniquement les gens qui ont fait la demande et qui sont enregistrés qui peuvent rentrer. Alors bien sûr pour les migrants qui veulent aller en Angleterre, qui sont déjà en France, qui veulent aller en Angleterre, donc tout ça un peu à l'intérieur de Schengen, cette histoire de se faire scanner la main, ça évoque fort les fameux accords de Dublin 2, je pense, ceux qui disent que en Europe on doit, si on veut demander l'asile en Europe, on le demande dans le premier pays où on a mis les pieds. Et donc, pour une bonne part de ces migrants, en réalité, ils ont déjà posé leur empreinte ailleurs et puis ils se sont barrés parce que ce qu'ils veulent, c'est l'Angleterre. Mais donc, comme il y a une base de données globale de Schengen, ça veut dire que des empreintes qu'ils donnent à Calais peuvent tout à fait se retrouver à faire que, bon, ben, en fait, on va plutôt les renvoyer en Lituanie, en Hongrie, dans des pays où ils ont hyper envie d'aller. Déjà, la France, ils kiffent pas beaucoup. mais bon, vous imaginez la Hongrie, quoi.
Oui, en tout cas, ce que tu veux dire, c'est qu'en tout cas, s'ils veulent un lit dans ce centre, ils seront obligés de se soumettre à une expulsion possible.
Pour vivre dans un truc qui est à la fin, du coup, des piles de containers entourés par un grillage. Mmh. Un grillage de camp, quoi.
Oui, la maison de nos rêves, quoi.
C'est ça. Mmh. Alors, au cours de l'audience qu'il y a eu au tribunal pour demander que ce camp soit pas expulsé, les avocats des associations ont notamment souligné que la jungle était un camp qu'ils appelaient toléré par l'État. En tout cas, il faut quand même rappeler comment la jungle actuelle est née. Et donc ça, c'est il y a un an, les flics, donc mandatés par la préfecture elle-même, qui reçoit elle-même ses ordres du ministère de l'Intérieur, les flics ont fait le tour de tous les endroits où des migrants pouvaient être à Calais, pouvaient habiter, être hébergés ou quoi. C'est-à-dire des petits terrains, mais un peu épars, où ils étaient quelques-uns. Des endroits où ils étaient un peu planqués, des endroits où ils étaient moins planqués. Des squats. Ils ont fait le tour partout. Et ils ont forcé les migrants à aller tous s'installer sur ce même grand terrain. Et donc ce grand terrain, c'est ce fameux bidonville d'État dont on vous a parlé déjà plusieurs fois dans cette rubrique.
Et dont à l'époque dont on vous parlait, on dit déjà que c'était, et puis les militants sur place disaient déjà que c'était à la base une très mauvaise idée.
C'était
de
déjà
réunir
une très
plein
mauvaise
de monde
idée.
Au même endroit, quoi.
C'était déjà une très mauvaise idée, mais les mêmes militants aujourd'hui, trouvent que ce qu'on propose maintenant, c'est encore pire. En tout cas. Quand même, à l'époque où on avait forcé les migrants à aller là-bas, on leur avait promis qu'ils n'en seraient pas expulsés par la force. Mais vous savez ce que ça veut dire quand un social on promet quelque chose, hein, c'est un peu comme quand ils promettent de ne pas toucher en 35 heures. Tout le monde a compris. Donc toujours à l'audience du tribunal administratif, les avocats des associations ont lancé la bataille des chiffres. Il faut dire que la préfecture du Nord-Pas-de-Calais, alors comme elle dispose d'un petit millier de places dans son fameux centre d'accueil provisoire, elle a compté les migrants de la moitié sud qu'elle veut expulser, et puis elle a trouvé qu'il y en avait entre 800 et 1000. Cool, ça marche trop bien. Miracle. Mais les militants associatifs, eux, bah, ils ont aussi fait un recensement. Et alors, ils ont fait un recensement, ils sont juste passés partout. Hein. Ils ont fait cabane par cabane, tente par tente. Mais ils n'ont quand même compté que les gens qui étaient là au moment où ils sont passés. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient allés se balader en dehors du camp n'ont pas été comptés. Ils ont quand même trouvé, non pas entre 800 et 1000 personnes, mais plutôt 3451 habitants.
Toujours la même bataille de chiffres.
Oui, c'est ça, comme quand on va manifester. Sauf que quand on va manifester, personne compte aussi sérieusement que là les militants ont compté. Hein. Donc 3451 habitants, 132 familles, 438 mineurs, dont 291 mineurs isolés. Et bon bah voilà, l'article dans lequel les militants racontent ce comptage, ils comparent la situation. En fait, ils demandent jusqu'à quel niveau les gens sont conscients que les chiffres qu'ils avancent sont des mensonges. Jusqu'à quel niveau de l'État et de la hiérarchie. Et en fait, ils comparent la situation aux anciens pays socialistes quand il y avait un plan et qu'il fallait que le plan soit maintenu. Mais ça a pu être le cas en Russie ou en Chine. Et que personne n'osait dire à son supérieur que le plan n'était pas atteint, que les objectifs du plan n'étaient pas atteints. Du coup, tout le monde mentait et on ne sait pas exactement jusqu'à quel niveau les gens étaient conscients que c'était un mensonge qu'ils étaient en train de transférer au niveau au-dessus. Et ben là, c'est un peu la même chose dans la jungle de Calais, parce que bien sûr, tout ça, c'est parce que il y a, alors je me rappelle plus, il me semble que c'est au début de l'été. La préfète trouvait qu'il y avait 6000 personnes dans ce camp, mais elle s'était engagée à faire réduire ce nombre, et donc il fallait que ce nombre soit réduit au nombre de places qu'elle aurait à proposer au moment où elle voudrait virer tout le monde, donc entre 800 et 1000. Donc aujourd'hui, c'est clair, il y a entre 800 et 1000 personnes, point final.
C'est super.
De son côté, la préfecture a insisté sur ce qu'elle préfère appeler un déplacement et non une évacuation vers des conditions de vie plus dignes. Alors là, on revient à ce que tu racontais tout à l'heure, hein, à propos des Roms.
La grande rhétorique.
C'est toujours la même chose, là. C'est qu'on veut virer des pauvres, donc que ce soit dans la jungle de Calais ou dans un squat lyonnais. On insiste sur le fait que l'endroit où ils vivent est moche, est indigne, est dangereux. Et qu'il vaut mieux être purement et simplement dehors, c'est évident. Donc, encore une fois, la moralité de tout ça, c'est que l'État français a une stratégie et une seule, rendre la vie des migrants impossible en espérant que ça suffira du fait que leur vie est impossible à ce que leur vie n'existe plus, à ce qu'ils s'évanouissent tout bonnement dans les airs, qu'ils arrêtent tout simplement d'exister. Ça serait encore plus pratique, bien sûr, si on pouvait rouvrir les chambres à gaz, mais pour l'instant, on dirait que les socialistes ne pensent pas encore que électoralement ça serait payant. Alors, cette décision ne semble pas encore avoir été complètement abordée avec le sérieux qu'elle mériterait.
Faut peut-être attendre les prochaines élections.
Je pense qu'il va falloir attendre peut-être jusqu'aux prochaines élections, c'est dire si les socialistes sont des mous. en tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a deux articles hyper intéressants sur ce blog dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Passeur d'Hospitalité. Un article qu'en réalité qu'on trouve un peu partout et qui est relativement court et qui est pas vraiment un article, qui est une lettre ouverte à Bernard Cazeneuve qui est signée par 8 associations et qui explique pourquoi est-ce qu'elles, elles sont opposées à cette évacuation du camp, bien que, soulignons-le quand même, en réalité, personne ne trouve que ça soit bien que des gens habitent dans ces conditions, hein, dans ces cabanes, dans la gadoue. Sauf que voilà, les autres solutions proposées par l'État sont encore bien pires.
C'est toujours la gestion du désastre et du moins pire, de toute
c'est
façon,
ça.
Depuis le début.
Et puis, il y a un autre article qui est hyper intéressant, qui est long par contre, et qui s'appelle « La jungle et la ville ». Mais alors celui-là, je vous le recommande, mais chaudement. Cet article revient vraiment en long, en large et en travers sur les enjeux autour de cette jungle, de ce qui existe, de ce qui a été mis en place, de ce que sont les alternatives proposées par l'État, et de ce que pourraient être d'autres alternatives. Et alors, les solutions qui sont évoquées par ces deux articles, donc d'un côté la lettre ouverte, de l'autre l'article long là, c'est pas les mêmes solutions, mais c'est des solutions complémentaires. En fait, elles se placent pas juste au même niveau, mais surtout, elles sont pragmatiques, elles sont possibles à mettre en œuvre, et elles ne partent pas du principe que les gens vont bien vouloir, juste parce qu'on les aura terrorisés, vont bien vouloir purement et simplement arrêter d'exister. Autant dire que aucune chance pour que des socialistes s'intéressent un jour à ce type de solution.
Il faut que ça sache.
Pardon. Ah, bah, la belle époque de l'Europe solidaire, hein. Comme une expulsion, hein, comme tu viens de le dire, de la partie sud du monde de réfugiés de Calais est une menace imminente, et ben, effet ricochet, la Belgique a décidé de rétablir ses contrôles avec sa frontière avec la France. Et oui, ils ont peur que les migrants expulsés de Calais viennent trouver refuge en Belgique, et notamment vers le port de Zeebruges, oui. Moi, j'ai vu Bruges-Zeebruges. Ah. D'où des ferries partent pour l'Angleterre, mais qui ont aussi... et qui est aussi une station balnéaire très prisée par les Belges.
Quel miracle Schengen quand même.
C'est
magnifique, quelle belle invention.
En même temps, faut pas trop se foutre de notre gueule dans une station balnéaire prise en Belgique. Je veux dire, comment tu bronzes en Belgique?
Auditeurs belges, ne vous appelez pas tout de suite, s'il vous plaît.
Les auditeurs et auditrices qui ne comprennent pas le second degré, vous avez qu'à changer de radio là, je crois.
Mais alors là, attention, parce que quand même, on connaît les politiques quand même. Ils parlent pas comme ça, juste dans le vent. Non, non, ils en veulent pour preuve. Hier, 32 personnes ont été arrêtées dans la région, a déclaré le ministère de l'Intérieur, et a dit le potentiel, ce sont des milliers de migrants. On passe de 32 à des milliers, hein, comme ça, juste sur une déclaration. C'est pas mal quand même. Hein. Mais quand même, tout ça s'inscrit dans un contexte fort sympathique, hein, aussi de ce côté de la frontière, puisque quelques semaines plus tôt, le gouverneur de la province de Flandre-Occidentale avait lancé sur une radio, là je cite, « Tendez bien les oreilles, ne nourrissez pas les réfugiés, sinon d'autres viendront ». Message adressé aux habitants de Zeebruges particulièrement, qui ont eu le malheur d'apporter un peu de bouffe et des couvertures à ceux qui n'en ont pas. Bon, le bon côté de cette histoire... hein, qui rappelle un peu ne nourrissez pas les singes, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais oui, du coup
c'est à Zeebruges en fait. Zeebruges.
Ah, il est temps qu'on finisse ces infos.
C'est la fatigue.
Mais quand même pour finir, et ben le bon côté de ça, c'est que ces déclarations ont une espèce d'effet un peu médiatique comme ça, voilà, en Belgique, mais ça a surtout un effet sacrément contre-productif, puisque plusieurs personnes sont venues le lendemain. Rassurez-vous, c'était pas une manifestation contre les migrants, mais au contraire pour filer un repas et des couvertures aux 35 migrants présents sur place. Bon, l'article que j'ai lu ne dit pas si c'était une opération qui était répétée, mais c'est pas impossible non plus.
Alors voilà, on va finir cette rubrique par un appel qui a été lancé par des associations françaises contre les expulsions en Haïti. Mais avant ça, pour comprendre un petit peu de quoi on parle, je vais faire un petit point. J'espère qu'il sera à peu près clair, parce que je connais pas très bien la situation. Du coup, sur la situation en Haïti depuis la fin du mois de janvier. Il y a un climat qui est vraiment super tendu du coup là-bas, puisque depuis le début de la crise électorale qui a quand même conduit à l'annulation des élections présidentielles le 24 janvier dernier. Cette annulation en fait fait suite à ce qui est présenté comme et appelé la semaine de la rébellion populaire, et qui a consisté en de nombreuses manifs anti-électorales, des émeutes, des incendies de bureaux de vote pour contrer un possible coup d'État du président sortant, Michel Martelly. On n'y connaît toujours pas du coup le chef du gouvernement, alors que pourtant il y a le Parlement qui a élu il y a 10 jours un président provisoire, Joselerm Privert. Celui-ci là est en train de mener des discussions avec les différentes chambres, parlements et conseils pour trouver un gouvernement et organiser de nouvelles élections. Mais en tout cas, depuis le début de cette crise politique, les Haïtiens et Haïtiennes subissent une situation qui est faite de violence et de grosses tensions politiques qui, bien sûr, parce que bon, Haïti c'est quand même... S'il y a un dieu qui s'acharne, s'il y a un dieu qui existe et qui s'acharne sur un endroit de la Terre, c'est quand même bien style, quoi. Du coup, qui vient renforcer la situation de super grande précarité dans laquelle se trouve le pays, qui s'est toujours pas relevé du séisme de 2010, là, et qui traverse une super grave crise économique. La sanitaire, c'est un peu mieux, mais bon, c'est quand même chaud. Bref, le pays est en ébullition, et il y a une ville, c'est la ville de Léogane, qui est la ville en fait où il y a un très grand nombre d'immigrés haïtiens qui sont sur le territoire français. Cette ville est particulièrement touchée et en proie à de grandes violences. Tant qu'une issue ne sera pas trouvée à la crise politique, la situation générale du pays est encore plus fragile qu'avant, et c'est pas peu dire donc. Alors voilà, il y a des assos, bon, il y a Jean Logistie, la CIMA, la Ligue des droits de l'homme, etc., qui rencontrent de nombreux et nombreuses haïtiens et haïtiennes, et qui sont sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire français. Et ces personnes d'Haïti qui ont peur la situation du retour. Parce qu'ils risquent de se retrouver isolés dans un pays qu'ils ont quitté d'ailleurs souvent depuis plusieurs années, qu'ils connaissent plus très bien, dans une situation où ils n'auront pas de repères. Et voilà, c'est déjà pas facile de se faire expulser, mais encore moins quand le pays est en train de se déchirer un peu partout, quoi. Du coup, considérant que la sécurité des personnes expulsées n'est pas assurée, eh bien, là, par conséquent, celle-ci se trouve en situation potentielle de grande vulnérabilité qui peut entraîner une très forte précarité quand ils vont débarquer là-bas. En 2015, il y a plus d'une centaine de personnes haïtiennes qui ont été expulsées. Donc, en grande majorité, c'est depuis la Guyane et la Guadeloupe, hein, les centres de rétention qu'on oublie trop souvent, mais qui font un volume d'expulsions complètement incroyable de la France. Et les expulsions se poursuivent depuis le début de l'année, en dépit de la situation politique et là-bas. Donc il y a cet appel qui a été lancé par les assos dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que d'autres assos dont j'ai oublié le nom, un peu moins connu, qui demandent aux autorités françaises de suspendre tout éloignement forcé vers Haïti. Vous pouvez retrouver un peu le détail de cet appel, si vous le souhaitez, sur le site du Gisti.
Eh bien, il est 19h50 quasiment, et les infos touchent à leur fin.
C'est la fin de ce canu info, il faut bien se l'avouer.
Ah, quelle chance, les auditeurs vont pouvoir écouter un petit peu de musique avant d'écouter l'excellente émission qui suit.
10 minutes de bande continue avant l'émission de la Confédération Générale Anarchiste.
Merci de nous avoir écoutés.
Ouais, des groupes anarchistes, machin. Oui, enfin bon, moi j'y suis pas dans leur truc là, hein, ça se voit. Hein. Mais ils vous diront bien le nom tout à l'heure à 20h pétante.
Allez, à la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.
Bonne soirée.